La lecture dans le chapitre 13 de l'évangile de Jean, verset 21. Jean 13, verset 21. Ayant dit ces choses, Jésus fut troublé dans son esprit et rendit témoignage et dit : en vérité, je vous dis que l'un d'entre vous me livrera. Les disciples se regardaient donc les uns les autres, étant en perplexité, ne sachant de qui parler. Or, l'un d'entre ses disciples que Jésus aimait était à table dans le sein de Jésus. Simon Pierre donc lui fait signe de demander lequel était celui dont il parlait. Et lui, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit : Seigneur, lequel est-ce ? Jésus répond : c'est celui à qui moi je donnerai le morceau après l'avoir trempé. Ayant trempé le morceau, il le donne à Judas Iscariot, fils de Simon. Et après le morceau, alors Satan entra en lui. Jésus donc lui dit : ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Car quelques-uns pensaient que, puisque Judas avait la bourse, Jésus lui avait dit : achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il donna quelque chose de fort. Ayant donc reçu le morceau, il sortit aussitôt. Or, il était mort. Lorsqu'il qu'il fut sorti, Jésus dit : maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et incontinent, il le glorifiera. Enfin, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs : là où moi je vais, vous ne pouvez venir. Je vous le dis aussi maintenant à vous. Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que vous avez de l'amour entre vous. Simon Pierre lui dit : Seigneur, où vas-tu ? Jésus lui répondit : là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Pierre lui dit : Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je laisserai ma vie pour toi. Jésus répond : tu laisseras ta vie pour moi ? En vérité, je te dis : le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu ? Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous eusse dit : car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Vous savez où moi je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit : moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit : je suis depuis si longtemps avec vous que tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment toi dis-tu : montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous dis : celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai.
Donc, nous continuons notre étude du chapitre 13 de l'évangile de Jean.
nous avons rappelé il y a deux jours que les chapitres 13 à 16 inclus, elles représentent comme un testament de la part du Seigneur, ayant fini son ministère public, il va s'adresser aux siens dans l'intimité, dans la confiance, et il va beaucoup leur parler du Père dans ces chapitres. Il sera beaucoup question de sa relation avec le Père et du Père lui-même. D'une certaine manière, l'Ancien Testament avait montré la grandeur, la puissance, la majesté de Dieu. Dans Jésus, il nous est révélé le cœur du Père. Et c'est très touchant dans ces chapitres où le Seigneur parle intimement avec ses disciples. Il leur parle du Père et il le manifeste. Et on avait souligné que c'était une étape supplémentaire dans le chemin du Seigneur. Il se trouve là, il passe un cap, une étape, il reste manifesteur, et son amour a été déjà manifesté, mais il a choisi d'aller jusqu'au bout de son amour. Et il va le manifester de manière pratique, concrète. On s'est arrêté donc la dernière fois sur ce lavage des pieds. Il se sert d'une coutume orientale. On lavait les pieds des hôtes. C'était un signe d'accueil, d'hospitalité. Cela apportait du rafraîchissement, cela faisait du bien. Et donc on a rappelé la dernière fois l'intention de Dieu de faire du bien à son peuple. Philippe et Étienne nous l'ont rappelé hier après-midi. Et le verset du calendrier levé aujourd'hui nous rappelle ces pensées de paix que Dieu a à notre égard et non de mal. Donc le plan de Dieu, c'est de faire du bien, et pour cela il le fait avec l'amour. Et il se sert de cette coutume pour montrer à ses disciples quel est l'amour de Dieu dans son cœur, de quelle sorte d'amour finalement nous sommes aimés, pas d'une idéologie, pas d'un principe, mais d'une motivation du cœur qui va jusqu'à s'oublier soi-même. Je crois que c'est saint Augustin qui parle de l'amour du saint, qui conduit jusqu'au mépris de soi, non pas qu'on se tienne pour rien, mais qu'on aime, on choisit d'aimer l'autre au point de s'oublier soi et on fait passer l'autre en premier. Donc, par cette attitude, le Seigneur va se mettre au pied de lui et un à un, il va les rafraîchir par ce geste, un moment de dignité, sans doute aussi de communion. On imagine un peu la scène où les regards se sont croisés. Donc, le Seigneur prenait le pied de lui. Et donc, on s'est arrêté aussi sur cette réaction de Pierre, par honte ou par rejet de la pensée de ce Dieu qui s'abaisse à ce point, refus dans un premier temps. Et puis, on a vu que le Seigneur a été clair. Si je ne te lave pas, tu n'as pas à parler avec moi, tu n'es pas en communion avec moi. Je ne te reconnais pas comme étant de moi. Et puis, il va donner ses enseignements. Si vous le faites à ceux qui sont autour de vous, vous le faites comme à moi. Donc, un côté très passif aussi, un côté doctrinal qu'on avait relevé aussi la dernière fois, l'activité du Seigneur qui nous rend maître. Et nous avons à rendre grâce de l'efficace de son œuvre aussi à la croix. Et donc, nous penchons aujourd'hui sur ces versets que nous avons lus. Et il est question anciennement, donc là, la trahison de Judas, en fait, de la relation du Seigneur avec ce disciple qui va le trahir. Il l'avait annoncé plusieurs fois. Et bien là aussi, il va se servir d'une coutume orientale. La bouchée de pain, c'était un signe d'honneur pour accueillir les autres, manifester l'intérêt qu'on leur porte. Et bien, on leur donnait une bouchée de pain, le maître de la maison donnait une bouchée de pain. Élever pour honorer les autres. Et le Seigneur va se servir de cette tradition, de cette coutume aussi pour parler aux siens et pour manifester la grâce du cœur de Dieu. Donc, il annonce que l'un va le livrer. Et on voit ce que cela crée dans cette atmosphère. Ils sont allongés selon la coutume, ils prennent le repas ensemble dans l'intimité de l'amour et le Seigneur fait cette déclaration. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas de qui il est question.
Donc on peut en déduire que finalement jusque-là, Judas n'avait pas éveillé les soupçons. Et qu'il avait été vêtu d'un masque, qu'il reflétait quelque chose d'autre de ce qui était vraiment. On voit chez Judas le souci des pauvres, souvent. Il était celui qui avait la bourse et qui devait donner aux pauvres. Et je crois qu'il nous faut nous approcher de ces versets avec beaucoup d'humilité. Dieu, dans sa parole, ne nous laisse pas les récits de ces hommes pour qu'on s'en régale, finalement. Si on veut être honnête avec nous, on a tous été un peu quelquefois un Judas. C'est-à-dire qu'on a trahi la confiance du Seigneur, on a trahi son amour. C'est facile de prendre de haut ces hommes, de les tirer pour les blancs, Judas qui trahit, Pierre qui renie, Thomas qui est incrédule, mais ce sont des hommes qui sont faits de la même face que nous. Et je crois qu'il y a beaucoup d'humilité qu'il faut nous approcher de ces versets et regarder les réactions de ces hommes. Et non pas nous tasser en tant que lui. Il y a peu de temps, j'étais en contact avec un jeune qui m'a téléphoné effondré. Parce que à la question de la cantine scolaire, à la question « Tu crois en Dieu ?», il a répondu non. Et il m'a dit « Tu ne peux pas savoir comme Judas. Tu ne peux pas savoir comme Judas. » Et je crois que, voilà, si on a conscience qu'on était de la même race que ces hommes, on ne les juge pas et on apprend ce que Dieu a à nous apprendre sur ces versets. C'est-à-dire sa grâce et son amour. Comment il agit. On a tous été dans des situations où on a été au clair avec l'amour de Dieu. On a fait un peu les prêtres, finalement. Des fois, on a été comme Thomas, on n'a pas cru. On n'a pas marché par la foi. Des fois, comme Pierre, on n'a pas voulu sortir notre drapeau. Tant que Dieu sait la complicité de nos êtres, intérieurs, et les forces qui sont en connexion en nous, en fonction des circonstances et de ce qui nous entoure. Donc, ce n'est pas pour faire le procès de Judas ce soir, mais pour nous pencher et voir que ce Seigneur est indiqué toute chose, c'est que son disciple va le livrer et qu'il va avoir des réactions de grâce. Il lui donne cette bouchée. Les autres ne comprennent pas. C'est une coutume finalement qui honore. Et puis il lui dit ça, ce que tu veux, ce que tu fais, c'est le promptement. Ils n'ont pas compris. Ils ont bien voulu savoir de qui il était question. Ils n'ont pas compris que le Seigneur leur répond. Et ils sont dans cette perplexité, il est persuadé qu'il va sortir pour donner au fond. Donc on peut penser aussi que Judas, il a eu cette pensée de livrer le Seigneur, notamment après la scène de Marie de Béthanie, puisqu'il est vraiment choqué de ce gaspillage, cet argent qui est là, et ce Seigneur qui devrait nous délivrer de l'envahisseur romain et... qui avait fait des miracles, dont il était bien persuadé qu'il y avait la puissance de Dieu là derrière. Et puis il prestronne là avec cette femme-là qui le couvre de parfum, qui ne comprend pas. Judas, il ne comprend pas. Et on voit dans l'évangile de Marc, notamment après cette tête, il va directement vers les chefs du peuple, et il est question de livrer le Seigneur, ils se mettent d'accord. Et donc, il agit en fonction de cet amour de l'argent. Il avait ce penchant, peut-être pas d'un trépas, les voleurs, les pièces après pièces, il mettait de côté. Oh, ça ne fait pas démarrer par grand-chose, et puis ça l'a mené très loin. Donc, nous penchons sur ces versets aujourd'hui, et puis sur ce Seigneur qui a fait par la signification, qui en parle de la croix, de la gloire du Père. Il revient toujours. Sur le Père, sur la gloire du Père, et puis sur les versets qu'on a lus dans l'évangile de 14, cette maison du Père, cette présence du Père, il ramène toujours les siens vers la personne du Père. Dans ces versets aussi, dans ces passages, le Seigneur ramène toujours les siens vers le cœur du Père, et finalement, il le manifeste, il le glorifie, il le met en lumière.
Juste un mot.
Qui a attiré mon attention, C'est le fait que l'âme du Seigneur a été troublée. Je vais le lire au verset 21. Et puis, un peu avant, au chapitre 12, et au verset 27, on voit aussi que son âme était troublée. L'âme de notre Seigneur est troublée. Alors, je vais lire ce verset 27 du chapitre 12. Maintenant, à l'instant où il parlait, maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père ? Ça passe à son Père. Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Puis il rajoute, on vient de parler de gloire. Père, glorifie ton nom. Et il vint donc une voix du ciel. Dieu qui lui parle. Et je l'ai glorifié déjà. Et je vais glorifier de nouveau. C'est un verset absolument merveilleux. Le Seigneur est troublé là, parce qu'il sait qu'il va aller à la croix. Délivre-moi de cette heure, mais je suis venu pour cette heure. Dépendance totale. Et puis j'arrive donc à notre verset maintenant. Ayant dit ces choses, nous avons vu hier, Jésus fut troublé de nouveau. Deuxième fois. Deuxième trouble. Jésus fut troublé dans son esprit et rendit témoignage et dit. Je ressouligne, je l'avais dit l'autre jour, cette expression qu'il redonna, je la redirai encore plus loin. En vérité, je vous dis que l'un d'entre vous me le livrera. Quelle solennité dans ces paroles du Seigneur. En vérité, je vous dis que l'un d'entre vous me vivra. Juste avant, il parle de la gloire du Père. Il voit que l'heure qui arrive ne peut pas lui échapper. Mais néanmoins, là, il est troublé. Pourquoi? Parce que l'un d'entre vous me vivra. Quelle chose! Quelle douleur terrible pour l'âme de notre Seigneur Jésus de voir venir ce moment terrible. L'un d'entre vous, les 12, l'un des 12, celui pour lequel il avait prié aussi, comme on voit dans l'évangile de Luc, toute une nuit pour choisir ses disciples, il avait choisi aussi Judas Iscariote. Son âme est troublée. Il est certainement nécessaire, quand on peut, de suivre un chapitre verset par verset, mais aussi de voir, de ne jamais perdre l'ensemble du chapitre. La division en chapitre n'est pas inspirée, mais elle est bien faite, en l'occurrence, ce chapitre 13, qui est quand même distinct des autres. Ce chapitre 13, il est dominé d'abord par la personne du Seigneur Jésus, par sa grandeur. Par la grandeur de son amour, par la grandeur de sa préconnaissance. Dans ce chapitre, le Seigneur Jésus sait 4 choses à l'avance. Il sait que son heure est venue de passer ce monde au Père. Il sait que le Père lui a mis toutes choses entre les mains. Au verset 11, il sait qui le livrera. Et à la fin du chapitre, il sait que son disciple Pierre le reniera. Ce chapitre est dominé par le Seigneur Jésus, qui est grand dans son service envers ses disciples. On a noté la dernière fois que quand il a défié, il fait 7 choses. Et enfin, on le disait à la sortie, mais il a essuyé les pieds. Et ça veut dire que quand le Seigneur s'occupe de nous, il fait un travail complet. Parfait. C'est pas à moitié fait, mais. Ensuite, il domine ce chapitre, oui, de son exemple, puisqu'il se donne en exemple. Et après, il est au centre dans ce cénacle. C'est à lui qu'on s'adresse. Tous les regards, finalement, sont tournés vers lui. Et puis, à la fin, il domine aussi la scène dans ce qu'il dit à Pierre. Alors, à côté du Seigneur Jésus, qui domine ce chapitre, il y a 12 disciples, 12 hommes. Et parmi ces 12,
il y en a trois qui sont nommés. Les autres sont un peu dans le monde. Roi, donc il y a Judas, il y a Jean et il y a Pierre. Judas, on vient d'en parler. J'ajoute une petite note à ce que tu as dit, Christophe, dans un évangile, il est cité deux 23, c'est-à-dire qu'il ne l'était pas au début. J'ajouterai aussi ce que nous avons dit la dernière fois, que Judas, comme d'ailleurs les deux disciples qui vont suivre, ils sont représentatifs. C'est-à-dire, Judas représente le terrible exemple de Judas, représente quelqu'un qui suivrait le peuple de Dieu sans que l'œuvre de Dieu ait pu se faire en lui. Quelqu'un qui suivrait le peuple de Dieu et qui n'a pas goûté que le Seigneur est bon. C'est un terrible et un solennel avertissement. Il reste là. Ensuite, il y a les deux autres hommes, Jean et Pierre. Ces deux-là m'intéressent particulièrement, m'interpellent. Je médite beaucoup sur ces deux hommes dans ce chapitre. Et sans qu'il y ait une progression dans ce chapitre. Jean, c'est représente l'homme spirituel, l'homme qui a une bonne fraîcheur spirituelle, qui a de la vitalité, lui qui a de la fraîcheur. Qu'est-ce que c'est que de la fraîcheur spirituelle? Je la définis ainsi chez un chrétien. C'est la capacité qu'a un chrétien d'être toujours dans l'admiration de la personne de Jésus. Voilà ce que c'est que la vitalité. Et Jean a cette vitalité. Jean est impressionnant dans ce paragraphe 21 et qui suit là. Il est à table avec les autres, mais il est dans le sein de Jésus, sur la poitrine, dans l'écriture, le saint, les saints, la poitrine. On voit dans le Cantique des Cantiques, c'est le symbole de l'amour, de l'intimité. Il est dans l'intimité du Seigneur, il a une part avec le Seigneur, Jean. Et il le prie facilement, il est tout prêt. Ça représente un chrétien qui a une bonne vitalité. Et la prière, nous le savons bien par expérience, il y a des moments où la prière coule. Et d'autres points, nous sommes un peu comme Pierre qui, il faut qu'on dise à son frère, tu ne voudrais pas rendre grâce à ma place. Et moi, je ne suis pas bien à l'aise avec le Seigneur. Et des fois, on le dit sans mots le dimanche matin. Ou peut-être certains longs silences trop lourds ne voudraient pas rendre grâce à ma place. C'est ce que dit Pierre. Oui, il est bien lourd. Parce que Jean a conservé sa fraîcheur spirituelle. Et Pierre, on sent qu'il n'est pas à la hauteur, là, dans cette scène. Il a perdu son discernement de la situation. Et finalement, Pierre, il est sur une pente descendante dans ce chapitre, qui ira jusqu'au péché caractérisé. Verset 28, le reniement, qui se passera au chapitre 18, mais il est annoncé. Donc je vois dans ce chapitre deux croyants, mais deux types de croyants. Nous sommes soit Jean, soit Pierre. Ou pour être plus honnête, tantôt l'un, tantôt l'autre. Je peux à un moment avoir une bonne vitalité spirituelle, une conscience comme Jean ici qui se nomme le disciple de Jésus humain, il est dans l'admiration de l'amour de Jésus, pour lui il le dit cinq fois dans son évangile. Et c'est ça la vitalité. Parfois nous sommes ainsi, nous sommes comme Jean. Et puis le moment d'après, nous sommes comme Pierre, justement. Nous sommes un peu plus loin du Seigneur, nous ne prions pas si facilement. Et pourtant, ces deux hommes qui sont dissemblables dans leur histoire spirituelle, et pourtant dans une situation circonstancielle identique, ces deux hommes, le commencement de leur histoire est identique dans ce chapitre, c'est ce qui me frappe. Ils ont tous les deux les pieds liés. Jean et Pierre, le départ était le même. Alors, tout bien que Pierre est sur la pente descendante jusqu'au péché caractérisé à la fin du chapitre. Eh bien, parce que Pierre a refusé de laver les pieds. en principe, il l'a refusé.
Ça représente un chrétien qui ne comprend pas que dans le monde terrible, avec toutes les influences que nous subissons, qui nous entourent comme la poussière entoure les pieds du voyageur, on ne peut pas faire autrement en traversant le monde. Ce monde de raisonnement, de philosophie, ce monde, comme le disait d'ailleurs un peu dans le Coran, ce monde entièrement dévotisé, ce monde de mensonges, ce monde gouverné par l'amour de l'argent, etc. Enfin, nous savons ce qu'il en est. Les médias, ce que nous voyons dans la rue, tout ça nous entoure comme la poussière entoure les voyageurs. Eh bien, ce Pierre, si nous refusons comme Pierre de nous laisser sanctifier par la parole de Dieu chaque jour, nous allons sur une pente descendante. Et cela rejoint le message de hier. Je le dirai plus simplement pour les jeunes. Si nous n'ouvrons pas notre Bible entre deux dimanches, nous allons dans le mur. Dans le mur de l'affaiblissement, d'abord, au milieu du chapitre, et dans le mur du péché à la fin du chapitre. Alors, ça nous interpelle parce que nous sommes au cœur de notre vie chrétienne avec ça. Pour s'affaiblir spirituellement, c'est-à-dire pour perdre sa vitalité spirituelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Ça va tout seul. On raconte qu'un grand violoniste a dit ceci: si je ne joue pas de mon violon d'un jour, je m'en aperçois. Si je ne joue pas de deux jours, mon public s'en aperçoit. Et si je ne joue pas de trois jours, si je ne joue pas de deux jours, mes amis musiciens s'en aperçoivent. Et si je ne joue pas de trois jours, mon public s'en aperçoit. Et donc, peut-être en entendant cela, un jeune chrétien va dire, mais alors finalement, pour conserver sa vitalité spirituelle, mais c'est un combat. Oui. Il faut une discipline de vie. Oui. Y a-t-il autre chose à faire que de lire la parole pour être sanctifié par elle, par les pensées divines? Non. D'après ce chapitre, non. On est au cœur de la vie chrétienne avec ce chapitre. Et si nous ne voulons pas aller jusqu'au... Si je ne veux pas, il faut que je parle aussi pour moi, si je ne veux pas aller jusqu'au péché caractérisé à la fin du chapitre, il faut que je prenne garde à ne pas m'affaiblir et à laisser le Seigneur Jésus, en lisant sa parole, me laver les pieds. Jean connaissait bien le monde dans lequel il marchait, puisque dans ton épître, il parle du monde et il ne veut pas par quatre chemins. Le monde entier gît dans le méchant, et le monde caractérisé par trois choses, convoitise de la chair, convoitise des yeux, convoitise de l'orgueil de la vie. Si un jeune chrétien, si un chrétien dit « Oh, que le monde, c'est pas si bon que ça », bien c'est comme s'il disait « Ce serpent-là, il n'est pas si dangereux que ça ». Mais Jean ne minimise pas le danger que fait courir le monde aux chrétiens. Notre spiritualité, notre vitalité est constamment menacée par le monde. On a hâte d'arriver, parce que alors quand on sera arrivé dans cette maison du Père, cette vitalité spirituelle, cette fraîcheur spirituelle ne sera plus menacée. Nous n'aurons plus besoin de la vague des pieds. Nous n'aurons plus le danger de nous affaiblir, si bien que le péché caractérisé nous guette. Comment ça se fait-il que Jean, il est allé au chapitre 18, on voit qu'il est aussi dans la cour. Avec Pierre, et même il va plus loin, parce qu'il était connu du sacrificateur. Bon. Comment ça se fait qu'il ait pardonné son maître? Mais parce qu'il était plus fort spirituellement. Quand nous sommes affaiblis, nous sommes très vulnérables au péché. Et quand nous sommes forts d'une force qui nous vient de Dieu, quand nous sommes dans l'admiration du Seigneur, nous sommes beaucoup moins vulnérables. Ah oui. Donc ce chapitre, je livre ça un petit peu en bref, mais sans pouvoir peut-être le dire très clairement, mais que chacun continue à méditer sur ces deux hommes
l'attitude spirituelle de ces deux hommes, Jean et Pierre. Et l'issue, comment ils sont différents spirituellement, alors qu'ils sont dans la même histoire, circonstancielle, mais l'histoire de leur âme n'est pas du tout la même dans ce chapitre.
On est frappé par la discrétion du Seigneur Jésus, la façon dont il a, comme tu l'as dit, Christophe, aussi tout à l'heure, vécu 3 ans avec Judas sans que jamais personne ne s'aperçoive de rien. Et encore ce soir-là, jeudi soir, personne ne s'aperçoit de rien. Et sa façon d'être troublé, très 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 émotionnel, il a également été troublé au tombeau de Lazare. Ce trouble est très fort parce que maintenant, il faut quand même crever la clé. Et en particulier, il va sortir, et on verra, il va sortir juste avant l'imposition de la tête. Il faut crever la clé. Et c'est très troublant parce que c'est son ami, celui qui mange le pain avec moi, a levé son talon contre moi, verset 18. C'est son ami. Alors, il fait cette déclaration, mais qui est encore un appel. À la limite, Judas aurait pu encore changer d'avis. La porte de la grâce était encore ouverte d'une certaine manière. Il l'avait déjà interpellé en disant juste avant, verset 10, « Et vous n'êtes pas tous maîtres. » Il l'avait interpellé au chapitre 6 en disant « Mais il savait que tous ne croyaient pas en lui et il savait qui le livrerait. » Voilà, Judas a été là et le Seigneur n'a pas eu d'attitude discriminante. Il n'a pas été différent. Au point qu'effectivement, quand Pierre est assis un peu plus loin, semble-t-il, Pierre, étonnamment, il fait signe, pour une fois, il ne parle pas. Ils sont quand même tous troublés. Mais aussi frappés par le fait qu'ils se remettent tous en question. Ils se disent l'un à l'autre, est-ce-moi, dans notre évangile. Ils sont tous troublés, c'est le silence. Et Pierre fait signe. Il fait signe à Jean. Et Jean, comme vient de le dire Lucien, est dans cette intimité tout près. Pourquoi sur la poitrine? Probablement à cause de cette position allongée, donc tout près du Seigneur, sûrement la place d'à côté, et en se penchant, évidemment, il est vraiment tout près. Et il lui demande lequel. Le Seigneur dit, celui à qui je donnerai le morceau, donne le morceau, mais c'est encore un signe d'amitié. Encore un signe d'amitié. Et même dans le jardin, il dira à Judas, mais Judas, tu livres le fils de l'homme par un baiser. Ou bien il lui dira, ami, pourquoi es-tu jusqu'à la fin? Et donc c'est un appel aussi pour chacun de nous, quoique clairement Judas est vraiment, il est établi dans la parole qu'il n'était pas croyant. On l'a vu au chapitre 6, on l'a vu là, on n'est pas tous nets, et puis au chapitre 17, le fils de perdition. Donc on n'est pas dans le cas d'un chrétien qui s'écarterait Judas. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas été chrétien, qui n'a jamais été. Mais qui est par contre parmi. Et on aimerait que ça ne soit pas ce soir, bien sûr, là, parmi. Mais l'appel est toujours vrai de se dire, est-ce qu'il n'y a pas parmi nous parfois quelqu'un qui fait semblant et qui n'a pas fait le pas avec le Seigneur. Alors, il le donne à Judas Iscariote après le morceau, alors sans que Satan entre en lui, un peu ce point de non-retour. Ce point où il a ouvert la voie dans son cœur et il y a un moment où c'est fini, où c'est le point de non-retour. Jésus lui dit, ce que tu fais, c'est le promptement. Donc, ce qui montre bien que les autres n'ont pas compris, ce qui montre que le Seigneur a été discret jusqu'au bout et qu'il a eu une attitude amicale envers lui, du début à la fin, c'est bien le fait. Aucun de ceux qui étaient à table n'a compris pourquoi il avait dit ça, sauf probablement Jean, qui est celui qui nous écrit. Et quelques-uns pensaient, puisque Judas avait la bourse, deuxième mention, en 24 heures, puisque la veille, il avait été mentionné effectivement la bourse à l'occasion de Marie de Bethanie. Jésus lui dit, il pensait qu'il lui avait dit achète dont nous avons besoin pour la fête. Alors, on pouvait aller acheter, on avait dit hier, ensuite, 19h. On est au début du repas, les magasins sont encore ouverts, on peut aller acheter quelque chose. Ayant donc reçu le morceau, il sortit aussitôt, or il était nu. Donc cette nuit, elle est bien sûr d'abord temporelle, ça nous rappelle les horaires, on a parlé, effectivement, 18-19h, début du repas, mais elle est bien sûr morale aussi. C'est la nuit quand on ne suit pas le Seigneur. C'est la nuit quand on est parmi des chrétiens, quand on vient à des conférences. Quand on est un enfant qui a grandi et qui est sur des bancs de réunion. Mais c'est la nuit si on ne s'attache pas au Seigneur Jésus pour le suivre. C'est ce qui s'est passé pour Judas. Il sortit aussitôt, donc juste un détail technique, c'est pourquoi n'a-t-il pas participé à la scène. Effectivement, on voit d'après les autres évangiles. Et pendant qu'il mangeait, il institue la scène, et à la fin du souper encore, la coupe. Donc le pain, et à la fin du souper, pendant qu'il mangeait. Alors là, on a vraiment l'impression qu'on est au début du repas, il y a eu la lavage des pieds, il y a ce moment de trouble, il y a le début du repas, et dès qu'il reçoit le morceau, il sort. Donc on peut penser qu'il n'a pas participé à la scène. La question se pose parce que Luc rédige les choses dans un autre ordre. C'est pour ça que la question se pose. Mais bon, on peut aller vite établir normalement qu'il n'a pas participé.
Juste une pensée par rapport au Seigneur qui est troublé. Les trois fois où il est parlé qu'il est troublé, c'est dans son âme ou dans son esprit. Et je me souviens d'une remarque d'un frère qui disait que je n'ai jamais dit que le Seigneur est troublé dans son cœur. Ça veut dire que son amour pour nous n'a jamais connu de trouble, n'a jamais été ébranlé, quel que soit ce qui était devant lui.
Je voudrais un instant revenir sur Pierre, et surtout sur la manière dont le Seigneur agit sur Pierre, opère sur Pierre. C'est quelque chose qui est très frappant pour nous et quand nous regardons dans notre propre vie, comment est-ce que le Seigneur agit? Eh bien, il n'agit pas différemment de ce qu'il a agi pour Pierre. Dans ce chapitre, donc, on a souligné, ce qui a été rappelé, les deux circonstances particulières. Pierre a une réaction forte. Tout d'abord, dans ce début du chapitre, le Seigneur lui parle. Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Et Pierre change d'avis. Son cœur est touché. Et il demande, certes, avec un discernement relatif, et le Seigneur le soulignera encore, mais il faut qu'il attende les pieds. La parole de Dieu doit être puissante dans nos cœurs. C'est nos affections profondes qui doivent être prises et qui amènent à des convictions. À la fin de ce chapitre, on a appelé le reniement de Pierre et à juste raison. Le Seigneur n'agit pas de la même façon. Mais il veut aussi apprendre à Pierre. Et Pierre, il faut aller bien sûr dans les chapitres suivants, et en particulier dans l'Évangile selon Luc, Pierre devra faire l'expérience qu'il a reniée. Mais le Seigneur ne l'abandonne pas pour cela. Il sait ce qu'il est nécessaire pour Pierre, des circonstances dans lesquelles il doit passer. On aurait pu penser, mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne l'arrête pas? Le Seigneur sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait aussi dans nos vies. Des fois, nous sommes subjugués par la parole. Des fois, nous avons besoin d'apprendre par l'expérience. Mais c'est là aussi que nous apprenons.
L'âme du Seigneur Jésus, l'esprit, est troublé par la présence de Judas. et par cette trahison qui va se produire. Et une fois que Judas est sorti, il semble que ce trouble disparaît et que le Seigneur est à l'aise de dire ce merveilleux verset 32 qui contient de grandes profondeurs. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Ce sont des paroles extraordinaires. Maintenant, le Seigneur, tout à coup, passe devant l'âme du Seigneur les résultats de son œuvre, c'est-à-dire sa glorification et la glorification du Père. Le Fils de l'homme est glorifié. Celui qui est entré dans l'humanité a glorifié Dieu. Le Fils de l'homme est glorifié. Il se situe, il se projette au-delà de sa croix et au-delà de sa résurrection au moment où il sera glorifié. Il en a la certitude. Dans le chapitre 17, c'est une prière. Père, glorifie-moi. Mais là, il l'affirme. Le Fils de l'homme est glorifié. Il va y avoir un homme, quelqu'un qui procède de l'homme, qui va être glorifié. Et c'est un homme qui est dans la gloire du ciel. Le Seigneur Jésus a pris une humanité dépendante. Maintenant, il a une humanité glorieuse. Un homme est glorifié dans le ciel. C'est une chose extraordinaire. Mais la deuxième pensée, c'est que Dieu est glorifié dans cet homme. Et ce n'est pas une pensée moindre. Comment, dans toute l'ancienne alliance, dans tout l'Ancien Testament, depuis la chute, comment Dieu avait eu du déplaisir dans l'homme, dans les hommes. Il n'avait pas été glorifié, au contraire. Il avait été déshonoré. Le nom de Dieu avait été blasphémé parmi les nations, même par le peuple d'Israël. Et le dernier prophète de Malachi, Dieu peut dire, je ne prends pas plaisir en vous. Même au milieu du peuple le plus privilégié, Dieu n'était pas glorifié. Et maintenant, voilà que Dieu est glorifié dans un homme, dans le Fils de l'homme, dans celui qui procède de l'homme. Comme le Fils de Dieu, c'est celui qui procède de Dieu. C'est une affirmation. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une prière. Le Seigneur voit les résultats de sa croix, de sa résurrection. Alors si Dieu est glorifié maintenant dans un homme, Dieu va aussi glorifier cet homme. Et c'est un homme qui est glorifié dans le ciel. Et c'est un homme qui a glorifié. Ce sont des pensées d'une très grande profondeur. Il faut que nous méditions intérieurement dans l'adoration devant ce Fils de l'homme qui est glorifié et qui a glorifié Dieu.
Glorifier tout de suite, puisque nous disons, mais incontinent, c'est-à-dire tout de suite, il le glorifiera, sans aucun doute.
Encore un mot sur ces deux dernières interventions. Le Seigneur a été trouvé dans son esprit, dans son âme, on a dit avec raison que son cœur n'est pas troublé. Le premier verset du chapitre 14, suivant, nous le montre, puisque il dit aux disciples que votre cœur ne soit pas troublé. Il est là, son amour est en exercice. Il est toujours présent pour ses disciples. Mais le trouble venant de ce qui s'est passé avec Judas et qui était présent avec l'Esprit du Seigneur depuis le début de ce chapitre, le trouble est certain. Et on peut penser toujours à ce travail de l'âme de notre Sauveur. Son cœur n'est pas troublé, mais il y a eu un moment où, lorsqu'il a livré son âme en sacrifice, lorsque il a été fait pécher. La parole emploie des expressions très fortes. Mon cœur l'a abandonné. Son cœur était fondu. Il est fondu comme de la cire au devant de l'entraille. On est là dans le moment suprême. le moment où alors le Seigneur est en réfléchi règle cette question. Il est là justement en train de faire ce que nous avons dit à l'instant, à savoir glorifier Dieu. Ce qui n'avait pas ravi, il a alors rendu son 60. Au moment où les eaux sont entrées dans la voie, et bien le verset 4 nous dit ce que je n'avais pas ravi, je l'ai rendu. Il n'avait pas ravi la gloire de Dieu. Comme s'il est emparé en effet depuis de cette chute, d'être égal à Dieu, hein, sous l'intimidation de Satan, du diable. Et alors le Seigneur va glorifier dans les choses de terre. Et là, je rejoins ce que disait Christophe tout à l'heure. Le Seigneur veut montrer, et d'une manière particulière, comment son Père va être glorifié. C'était son sens. Il était venu pour cela. Et il faut que ceci éclate, que ceci soit vu. Pour que son Père soit glorifié. Il ne l'avait pas. Il n'avait pas ravi cela. Mais il l'a rendu. Et c'est lui qui l'a fait.
Et donc, il découle un entendement pratique pour nous. Lorsque le Seigneur est maintenant, maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui, il se place en anticipation de la passion. Il y a une suite tout à fait logique dans ces versets. On a démarré par ayant aimé le sien, il est aimé jusqu'à la fin. Donc, il y a toujours cette démonstration de cet amour de Dieu, de ce que les théologiens d'autrefois ont appelé la kénose du Christ, de cet amour qui s'abaisse, eh bien, il montre, il redit que Dieu est glorifié dans cet amour-là. Satan est entré en Judas est sorti. On peut dire au passage que l'intention de Judas n'était pas de mettre en mort Christ, parce que quand il a vu qu'il était condamné à mort, il a du remords. Il voulait peut-être simplement une vengeance ou une bonne leçon pour le Seigneur, qui sait, mais il ne pensait pas que ça aille aussi loin. Et peut-être aussi que parfois, de façon pratique, il faut que l'on soit conséquent. Et que parfois, il nous faut porter les conséquences de nos conséquences. Parce qu'il ne pensait pas à ça. Mais voilà, il sort, Satan entre en lui, donc Christ va aller jusqu'au bout. Et c'est sa passion. Et par sa passion, par cet amour qui va jusqu'au don de la vie, et puis on rejoint le chapitre 15, il n'y a pas de plus grand amour que celui qui va jusqu'à donner sa vie pour ses amis. Et Dieu va être glorifié. Et il va glorifier son Fils à cause de cette passion, à cause de cet amour. Alors le Seigneur va avertir ses disciples. Je vais partir. Je vais aller dans les béatitudes de Dieu, dans le paradis, dans la présence du cœur du Père. Quand je reviendrai, je serai différent. Et il va les enseigner en les appelant enfants. Et on retrouve cela dans les épîtres de Jean, petits enfants. Il veut que les disciples grandissent dans leur foi et dans leur connaissance du cœur du Père. Donc voilà, le Fils de l'homme, il a glorifié Dieu par cet amour qui va jusqu'au don de sa vie. Et puis après, il y a cet enseignement. Je vous donne un commandement. C'est à vous maintenant de glorifier Dieu dans nos existences. Et comment, par l'amour, on en revient toujours au même. Dans le cœur du Père, il y a l'amour du Père. Il y a le Fils de l'homme, lui, dans tous ses actes, dans toute sa vie, a manifesté cet amour et a glorifié Dieu dans son humanité. Oh, c'est Thérèse d'Avila qui exhortait les croyants à ne jamais quitter du regard de l'humanité. Parce que l'humanité de Christ a créé, magnifié le cœur. Eh bien, il va s'en aller. Ou non, il ne les laissera pas, mais il va s'en aller. Ils auront plus physiquement comme ils l'ont eu. Mais à eux de rendre gloire. À eux, dans leur vie, dans leur cœur, de glorifier Dieu. Et pour un témoignage à ceux qui se connaîtront. Voilà, c'est un enseignement du Seigneur à l'enfant. Allez, grandissez dans l'amour. Grandissez, marchez dans l'amour les uns avec les autres envers vos semblables pour que le Père soit glorifié sur la terre. Et à vous de glorifier le Père. Et on a vu sur cet enseignement pratique de s'aimer les uns les autres qui ne tombe pas là par hasard. Qui ne tombe pas là par hasard. Et qui vient comme une suite logique de ce que le Seigneur a démontré dans ses actes, mais aussi dans ses paroles.
Donc, il leur précise qu'il s'agit d'un commandement nouveau, évidemment, qui démarre, si on peut dire, dès l'instant où l'œuvre de Christ va être accomplie complètement. Où là, ils auront une nouvelle vie. Être de nouveau. C'est ici que tu nous offres derrière eux et nous avec maintenant. Donc, un commandement nouveau ne peut pas exister dans les patriarches. C'est un commandement nouveau. Et il y a toujours un verset qui me frappe beaucoup et qui rejoint celui-là, c'est dans l'épître de Jean, la première épître, au chapitre 3 et au verset 23. Et c'est ici son commandement. Il s'agit du commandement de Dieu. Je vous donne un commandement nouveau, c'est évidemment le commandement de Dieu. Vous aimez un autre. C'est ici son commandement que nous croyons, nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est aussi un commandement. Donc, j'aime beaucoup cette expression de l'Épître de Jean parce que c'est premièrement un commandement que de croire en Dieu. J'ai mis devant vous la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis. J'ordonne maintenant aux hommes, dira l'apôtre en acte de sa joie, que tous, en tout lieu, ils se repentent. Voilà le commandement de Dieu. Donc il y a deux phases, ce commandement. La première, c'est cela. Nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et puis il y a un petit « et » tout de suite après. Oui, la parole est extrêmement précise. Et là, on rejoint l'enfant 13. Et que nous nous aimions l'un l'autre, suite à ce qu'a dit le Seigneur, pas seulement, selon qu'il nous en a donné le commandement. J'insiste sur cet aspect des choses. C'est un commandement de Dieu. Premièrement, pour être sauvé, il y a deux faces, ça peut dire. Et puis, deuxièmement, que nous nous aimions l'un l'autre. Et cela rejoindra ce qui est bien soutenu à verset 35-36, que nous sommes à ce moment-là des témoins qui nous reconnaîtront que nous avons ici.
Et encore pour un peu de temps avec vous, on me chercherait. Ça, c'était vraiment clairement l'annonce de ce moment terrible pour les disciples. Il était mort et il croyait que tout était fini. Donc ça, il le leur dit à l'avance. Et comme j'ai dit aux Juifs, là où moi je vais, vous ne pouvez venir, je vous le dis aussi maintenant. Là. Donc il l'avait dit aux Juifs, les Juifs s'étaient posé la question dans les chapitres précédents, est-ce qu'il va se suicider, où est-ce qu'il va, ils n'arrivaient pas à comprendre. Et là, le Seigneur leur dit aussi à eux, là où je vais maintenant, moi je vais, vous ne pouvez venir. Peut-être qu'il y a deux sens, vous ne pouvez venir parce que je vais mourir. Mais peut-être aussi, je suis seul à pouvoir accomplir cette œuvre. Vous pouvez. Et dans le commandement, je vous donne un commandement nouveau, comme tu viens de souligner, Jean, à un commandement, répond de notre part une décision. Et à notre mariage, notre amie américaine, vous avez envoyé un livre qui s'appelait « L'amour est une décision ». Et si le Seigneur nous commande de nous aimer les uns les autres, eh bien c'est déjà parce qu'il faut, que nous décidions. Ce n'est pas seulement un sentiment. C'est vraiment « je décide d'aimer mon conjoint. Je décide d'aimer mon frère, ma soeur dans l'église. Je décide d'aimer autour de moi. Un commandement et l'amour est une décision.
Et si je vous donne, c'est un don par le cœur. On ne peut pas accomplir un commandement si notre cœur n'est pas touché. Je crois que c'est essentiel, ce petit verbe que je vous donne. Juste, je ne reviens pas trop en arrière, mais je suis frappé par le fait que deux fois dans ce chapitre, il nous est montré que les disciples ne comprennent pas. Et dans le verset 19 de ce chapitre, il y a quelque chose qui me paraît essentiel pour nous, pour notre vie pratique. Vous comprendrez que c'est moi. C'est moi sur lequel je voudrais insister. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Notre vie n'est même pas suffisante, bien évidemment, à tout comprendre. Mais quel est l'essentiel? C'est moi. Je suis celui qui est en vous. Je suis celui qui vous est tout donné. Et alors, cela nous amène aussi à une courte remarque sur ce que nous avons dit et lu surtout dans les versets 31 et 32. Tiens présent, le Fils de l'homme est glorifié. Certes, nous comprenons bien que c'est à la croix que les choses se manifesteront et que Dieu sera glorifié et qu'ensuite, bien sûr, la gloire de Dieu et la gloire du Seigneur apparaîtront entièrement. Mais si je fais cette remarque, c'est parce qu'il nous semble que nous devons lire l'Évangile comme la gloire, comme pour y lire plutôt, la gloire continuellement du Seigneur. Et c'est comme cela que l'on peut rendre culte ensuite. C'est comme cela que l'on peut rendre grâce, parce que je découvre à chaque fois, à chaque moment de la vie du Seigneur, sa gloire, même si cela n'est pas expressément dit. C'est un exercice, c'est une lecture que nous devons avoir pour connaître le Seigneur selon ce qu'il dit ici. Le Fils de l'homme est glorifié. C'est un aorisme, si ça ne veut pas dire que ça touche et le passé et le présent.
Commander d'aimer, ça peut le prendre. Je n'ai pas vérifié, mais paraît-il que l'exhortation à aimer dans l'Évangile et dans le Nouveau Testament est de loin l'exhortation la plus fréquente, environ 25 fois. Et l'amour. Alors, notre langue française est très pauvre puisque nous n'avons qu'un mot pour dire j'aime le chocolat et j'aime Dieu. Mais les Grecs avaient toute une batterie de mots, et en particulier trois mots principaux, Eros, Phileo et Agapé. Alors les deux premiers, ils vivent de la réponse de l'autre. Si l'autre ne répond pas, c'est surtout le premier, ça ne va pas aller loin. Et même le deuxième, l'amitié. C'est pas facile d'aimer un ami dans lequel il n'a pas de réponse. Vraiment, un café, c'est autre chose, c'est l'amour divin, c'est un amour unilatéral. C'est un amour très particulier, c'est un amour qui ne vit pas de la réponse de l'autre. Voilà. Et oui, c'est ça l'amour divin. L'amour divin, il ne vit pas de notre réponse, malheureusement.
Et dans le couple, on dit souvent, c'est pour les trois, hein. C'est pas, faut pas, pas seulement le bébé. Et nous sommes exhortés à aimer l'agapé, c'est-à-dire d'une façon unilatérale. Et c'est un témoignage. Parce que si nous connaîtrons que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Mais c'est pas un amour facile. Il suffit de lire ce grand chapitre 13, ça correspond justement, la première épître aux Corinthiens, pour voir que c'est pas facile. L'amour use de longanimité, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Ça, c'est des choses négatives. Et puis, des choses positives, mais l'amour se réjouit avec la vérité. On n'aime pas son frère aux dépens de la vérité. Parce que ça ne serait pas vraiment l'aimer. Ça ne serait pas vraiment l'aimer agapé. C'est pour ça que la papier fait une différence entre l'affection paternelle et l'amour. L'affection paternelle pourrait, dans certains cas, faire plaisir, peut-être aux dépens de la vérité, pas l'amour. L'amour se réjouit avec la vérité. L'amour supporte tout. Il y a peut-être quelque chose un peu difficile, là, mais l'amour supporte. L'amour croit tout. Jusqu'à preuve du contraire, il croit tout. Parce que si l'amour ne suspecte pas le mal, jusqu'à ce qu'il se manifeste, en tout cas, il espère tout. C'est la patience qui intervient, c'est pas un amour psychodrome. Il endure tout. On peut tout l'entendre aussi, un peu de souffrance. C'est pas un amour facile, c'est l'amour de Jésus. L'amour ne périt jamais. Je crois qu'il faut être clair pour qui. Il n'y a pas de confusion. Dieu n'est pas celui qui nous met le pistolet sur la tempe pour nous forcer à aimer. Si moi, vous me mettez le pistolet sur la tempe, vous ne me forcez pas à aimer. Vous me ferez faire plein de choses. Ça, c'est l'aspirateur dans ce local. Mais vous ne me forcerez pas à aimer. C'est Corinne Boom qui dit aussi pour les bourreaux dans les camps de concentration que. Il leur faisait faire tout. Il pouvait exiger des détenus tout, sauf l'amour. On ne force pas à aimer. Et je rejoins la notion de décision que tu as dit, Frédéric. Quand Dieu nous parle de commandement dans sa parole, c'est l'expression de sa volonté. Il désire que nous nous aimions les uns les autres. Et nous sommes effectivement devant un choix à faire. Une décision à prendre. C'est oui ou c'est non. C'est pas un peu de deux. Et puis, quand il est question de commandement nouveau, dans le grec, il y a deux mots pour dire nouveau, pas dans la langue française. Alors, effectivement, ça peut être nouveau dans le sens où ça n'a jamais eu lieu, ça n'existe pas, on démarre une ère. Mais ce n'est pas le sens du nouveau ici. Parce qu'on pourrait prétendre que dans l'Ancien Testament, il n'est jamais question d'amour. Faux. On entend dire parfois que l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la crainte, et le Nouveau, c'est le Dieu de l'amour. Non. La crainte de Dieu, c'est, je reviens à ce que disait Peter, c'est avoir conscience que Dieu est Dieu. Et ça ne s'oppose pas du tout à l'amour. D'abord, dans Deutéronome, exhortation aimer Dieu, dans Lévitique, exhortation aimer son prochain. Donc, c'est dans le sens d'un commandement nouveau que je vous exprime ma volonté d'aimer les uns les autres, mais dans ce sens que cela va être renouvelé, recréé. Il y a une dynamique, un nouveau souffle. Vous allez accéder à une nouvelle étape, à d'autres dimensions dans l'amour. Ce n'est pas que l'amour de Dieu démarre à la croix. Non, bien avant les questions d'amour par la parole de Dieu. Et on voit ça aussi dans les réponses du Seigneur en face de ses opposants. Par exemple, les pharisiens,
suivait tous les commandements de Dieu. Au total, une centaine. La question qu'il pose au Seigneur, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras ton Dieu, toute ta force, toute ton âme, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le jeune homme riche, c'est différent. Il suivait, lui, les enseignements de la parole. Il n'est pas là pour surprendre le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Tu connais la loi. Et puis, le Seigneur cite que les commandements qui ont rapport au prochain, et ces choses, et tu vis beaucoup. Et puis, à ses disciples, aimer les uns les autres. Finalement, le sens des réponses du Seigneur, c'est pas Dieu, c'est l'amour. C'est ça, il faut faire attention. C'est l'amour. Dieu nous attend sur cette base de l'amour. Alors, aimez-vous les uns les autres. C'est nouveau, ça va être créé, parce que aimer son prochain comme soi-même, finalement, si on veut être honnête avec nous, ce que l'on se souhaite, c'est le bonheur, c'est du bien. Tous les gens sont à la quête du bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se faire du bien. Eh bien, dans cet enseignement, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est tout simplement que le bien que l'on souhaite à soi, eh bien, on le souhaite aux autres. Et là, on a une dimension plus grande. Comme je vous ai dit. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement de souhaiter à votre prochain, à celui qui est proche de vous, celui qui vous fait du bien, de lui souhaiter du bien. C'est de prendre cette décision d'aimer, de souhaiter du bien, de vouloir du bien, même pour votre ennemi, même pour celui qui se moque de vous, même pour celui qui vous crache au visage. Et c'est un commandement nouveau, parce qu'il va falloir un nouveau souffle, relever quelque chose, relever quelque chose. Et c'est très beau de voir ça, cet enseignement du Seigneur, et à la suite de ces versets qu'on a trouvés, sur lesquels on s'est penché, dans ses attitudes, dans ses gestes, il a montré cet amour et qui va jusqu'au don de soi. On se soi, mais c'est une décision, et ça ne coûte, Lucien, de allusion à la souffrance, quand vous donnez votre vie, ça vous coûte. C'est toujours quelque chose à perdre. Ça coûte, ça fait mal. Mais c'est vraiment ce que le Seigneur apprend de nous. Et on peut tourner en rond tant qu'on veut. On ne peut pas aller justement dans le directeur. On ne peut pas. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai dit. Je vous ai montré, je vous ai donné des exemples. Je vais vous aimer, je vais donner ma vie. Et les épîtres de Jean sont claires. À cet égard. Celui qui n'aime pas son frère, il a la tribu, son mesure de Dieu. Alors, il nous faut prendre au sérieux ces versets. Et puis voir cette dimension qui nous est ouverte. Ce n'est pas simplement ceci. C'est aller plus loin, se mettre plus bas que l'autre et vouloir son bien, même s'il n'en coûte pas propre. Ça fait toujours mal, dépendre de quelque chose du monde.
Il nous offre une nouvelle dimension, une nouvelle mesure, un nouveau souffle de puissance de Saint-Esprit, un nouvel exemple. Seigneur qui est allé jusqu'au bout. Et cet amour entre les chrétiens, tu le fais aussi, est leur plus grand témoignage. Ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous avez l'amour entre vous. Le plus grand témoignage d'une église, l'amour entre ses membres. Le grand témoignage dans un couple, c'est l'amour du couple. Dans une famille, l'amour qui règne dans une maison. Quelqu'un qui est seul, c'est l'amour qui est visible autour de cette personne. Le petit groupe de disciples va être vraiment mis à l'épreuve aussi. Et cette cohésion de ce petit groupe-là, de 11 disciples et puis les autres, les femmes, allait être mise à l'épreuve dans les heures qui allaient suivre. Il était aussi très très important qu'ils soient invités à serrer les côtes et à s'aimer. Tous allaient voir ce qui était vraiment lui. Ceux qui suivaient le Seigneur.
Alors Simon Pierre, et
Et par contre, lui n'est pas toujours très discret, on le sait. Donc, tout de suite, la question, c'est, mais où vas-tu? Seigneur, où vas-tu?
Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Tu ne peux pas me suivre maintenant, ça a été dit il y a deux jours, ça, il aurait pu, dû le prendre à cœur. Si le Seigneur dit, tu ne peux pas, ben, n'essaye pas. Et son erreur n'était pas de suivre de loin, comme on le lit dans l'Évangile plus loin. En fait, c'était de suivre. Il n'aurait pas fallu suivre, il ne pouvait pas suivre. Mais tu me suivras plus tard.
La tradition dit que Pierre a été effectivement crucifié, lui aussi. La tradition précise la n'est pas. Donc peut-être qu'il y a eu effectivement une consécration à la fin, il a été martyrisé, comme aussi à la fin de l'évangile de Jean le lui annoncera quand, après la dernière miraculeuse, quand il lui sera dit de quelle mort il va glorifier Dieu. Tu me suivras plus tard. Alors Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je laisserai ma vie pour toi. Ça c'est très sincère, ça montre tout son amour, toute son énergie. Et on aime ce côté énergétique de Pierre.
Et Jésus répond, tu laisseras ta vie pour moi, en vérité, je te dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. L'annonce du reniement de Pierre est dans les quatre évangiles. Et c'est donc quelque chose de bien important. Tu laisseras ta vie pour moi. En vérité, tu me renieras trois fois. Alors, on pense parfois qu'on tombe surtout là où nous sommes faits. Eh bien, il y a des exemples un petit peu à l'envers. Alors, Abraham, c'est vraiment l'homme de foi. Et en fait, bah, il a manqué de foi. Et sa chute, ses erreurs, a souvent été de manquer de foi. Si on pense à Moïse, l'homme le plus doux de la terre, eh bien, sa faute, ça a été de se mettre en colère. Si on pense à David, d'une intégrité, mais même quand il coupe, le vêtement de Saül, ça le reprend. Un homme intègre et droit, mais tellement fin. Et il tombe pour une affaire de meurtre, et il masque encore un assassinat. Élie, vraiment l'homme de prière, de dépendance, il s'entend dire la question, mais que fais-tu ici? Et puis Pierre, cet homme de courage, d'énergie, en fait, il va tomber par manque de courage. Et donc là où nous-mêmes, on s'attend souvent à tomber là où on est faible, eh bien, prenons garde, peut-être qu'on peut aussi tomber là où on se croit. Et c'est la ce qui s'est passé pour Pierre et pour les autres.
Aux exemples que tu as donnés, et puis en revenant sur cette réponse du Seigneur, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Je crois qu'il y a un entraînement pour qu'une passion confiance au Seigneur. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, l'achèvera. Et j'y vois aussi dans ces versets toute la grâce du Seigneur qui sait toutes choses et qui sait aussi pourquoi des obstacles sont sur notre chemin, des tentations. Et ça rejoint un peu ce que l'apôtre Paul lui demande. J'ai supplié pour que je sois délivré de cette écharpe dans la chair. Seigneur, ne lui offre pas l'écharpe, mais lui dit ma grâce. Ma grâce. Mais je crois que dans cette réponse du Seigneur à Pierre, il montre aussi cette œuvre qu'il crée dans son disciple. Il va le retrouver quelque temps après, par trois fois, il va lui demander une minute. Il va y avoir des échanges entre le Seigneur et son disciple. Et on le trouve encore, on le trouve au début des actes. Il est peut-être encore plein de tous ces miracles. Les miracles sont là pour accompagner sa prédication, pour manifester la puissance de Dieu. Et puis, à la fin, il y a justement cette fin avec cette humilité qui fait la tête en bas. Quel chemin ? Quel chemin ? C'est notre histoire. On a cité sur des exemples, mais la grâce de Dieu accompagne chacun. Chacun. David, avec sa faute, est appelé à la fin de toute sa vie. Ce Moïse qui est sur le mont Nebo, qui voit de loin le pays de la promesse. La grâce du Seigneur nous accompagne jour après jour. Et il y a des fois où il nous répond : je ne peux pas suivre. Il y a encore du chemin pour toi. Je n'ai pas terminé l'œuvre en toi. Ma grâce va te suffire. Et ça, c'est un grand encouragement pour nous. Il y a des fois, on baisse les bras, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Des épreuves, des difficultés. On a supplié, il n'y a pas de réponse. On est des fois là à patauger. Bien, avoir confiance en celui qui sait toutes choses et qui nous dit la grâce de Jésus. Jusqu'au bout, les soins du Seigneur sont constants. Ils ne manqueront pas. Ça ne manque plus d'espoir.
Le Seigneur Jésus, c'est tout à l'avance. Et c'est même tout à l'avance de notre vie. La preuve, puisqu'il sait tout à l'avance de Pierre. Il sait son reniement. Ça, c'est un côté. Mais je me demande si c'est. Ouais, c'est quand même jamais une fatalité que nous péchions. Est-ce que Jésus n'a pas essayé de dissuader Pierre comme il a essayé de dissuader Judas? Est-ce qu'il ne l'a pas averti dans Luc qui dit Simon, Satan a demandé à vous cribler comme le blé? Il a été averti, Pierre, même ici. Et nous sommes avertis. Je crois. On peut faire un peu en rétrospective de notre expérience, je crois qu'on a jamais manqué sans que le Seigneur nous accueille. On le voit très nettement dans le péché de David que tu as signalé. Il est sur le toit de sa maison, il voit cette belle femme qui se lave, et bon, jusque-là, il n'y avait rien de prétentieux. Il va demander des renseignements sur cette femme. Et on lui dit que c'est Bathsheba, femme d'Uriah le Héthien. Cette femme est mariée. Stop. Et bien non, David grille le feu rouge et continue. Et Dieu l'avait averti, quand cette femme était mariée, il aurait dû arrêter. Et nous, quelquefois, le Saint-Esprit nous alerte. Et si nous grillons le feu rouge, là, on va droit dans le mur. On va dans la voie du péché caractérisé comme Pierre. Je me demande si ces paroles du Seigneur auraient pas pu encore l'avertir. Si ce n'est pas une fatalité qu'on pêche. Non, non. Ce n'est pas programmé d'avance. Même si, dans un sens, la préconnaissance du Seigneur domine tout, bien sûr, il connaît notre vie à l'avance. Mais ne pensons pas qu'il y a un péché programmé dans notre vie. Et que nous sommes, c'est indispensable que nous péchions puisqu'il est programmé. C'est confondre deux choses. Non, il n'y a pas de péché programmé que je suis absolument, que je dois faire nécessairement. Non. Parfois, on a bien conscience que Dieu nous alerte. Il y a des petites choses. L'homme spirituel, enfin, si nous avons un certain degré de spiritualité, si nous ne sommes pas justement affaiblis comme Pierre par le recul de s'être laissé laver les pieds. Si par exemple Dieu veut m'avertir, mais que je n'ouvre pas ma Bible ce jour-là, ou même entre deux dimanches, je laisse ma Bible de côté, comment va-t-il m'avertir? Est-ce que ça nous est jamais arrivé de lire la parole et dire, voilà, Dieu met le doigt sur le péché que j'allais commettre. Et si je n'avais pas ouvert ma Bible, je serais, j'aurais continué, je serais. Donc c'est important d'écouter Dieu. Et là, Pierre ne prête pas trop attention à Jésus, il contredit Jésus. Et il n'est pas très attentif, Pierre, là, aux paroles de Jésus. Parce que quand Jésus dit quelque chose, ça doit être écouté. Tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Il dit, discute avec le Seigneur. Pourquoi, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Laisse-moi dire pourquoi. Il résiste au Seigneur, dans le sens. C'est pas bon de résister au Seigneur. Quand il nous parle, il faut vraiment l'écouter. On est gardé de chute en l'écoutant. Et on revient toujours à la nécessité d'ouvrir nos Bibles. Jeune croyant, où est ta Bible? Entre deux dimanches, où est ma Bible? Je veux bien me poser la question. Il ne faut jamais permettre que la poussière se dépose sur notre Bible entre deux dimanches.
Oui, et à ce propos, je peux rappeler aussi ce qu'avait dit une grand-maman en parlant de ses enfants. Et ce que je remarque, c'est que la Bible reste sur le coin du buffet d'une semaine à l'autre. Et ça me fait de la peine et je prie beaucoup le Seigneur pour cette chose-là. Il est bien exact que si nous perdons de vue, si nous n'avons pas la parole de Dieu avec nous chaque jour, eh bien, nous allons baisser dans notre vie de la foi. Je voudrais lire seulement le verset 31 de Luc 22, où quelqu'un fait allusion du sien. Et le Seigneur dit, au verset 31, Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, car une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. Seulement deux remarques, c'est que il y a notre décision de suivre le Seigneur et de dire sa parole, vous faites le garder. Mais il ne faut pas non plus nier qu'il y en a un qui s'interpose dans notre chemin pour nous mettre un écran entre le Seigneur et nous, c'est Satan. Et là, justement, le Seigneur il fait allusion, et c'est très important. Sachons que l'ennemi est à notre porte, et à la porte de mon cœur, déjà, bien évidemment. Mais ce qui est remarquable dans cette chose-là, c'est la parole du Seigneur qui est là comme notre avocat. Il nous le dit encore ce soir, parce que nous sommes dans la faiblesse, si nous ne sentons pas très fort face aux pulsions qui sont en nous, ou bien les tentations qui sont autour de nous, et bien sachant quand même que le soin du Seigneur ne nous abandonne pas, qu'il est toujours nous dans le ciel, c'est un de ses offices qui est essentiel, et il nous faut tout penser pour ne pas perdre courage, pour savoir que le Seigneur pense à nous, et il vit... J'ai prié pour toi afin que ta foi, donc c'est la foi qui nous sauve, mais c'est la foi aussi qui nous garde et qui permet qu'elle soit ravivée lorsque le Seigneur nous parle par le Seigneur. Et il lui annonce déjà, comme parole d'espérance, que lorsqu'il sera revenu. Donc quelquefois nous avons à revenir, comme dans ce beau chapitre d'Ézéchiel où le pour nager, pour traverser le fleuve, et puis par moment, il faut revenir au bord. Ah, il faut revenir au bord, parce qu'on ne peut pas nager tout seul, il faut y aller prise de conscience qui sont à faire quelquefois. Et donc là, on voit que le Seigneur est vraiment près de chacun, comme il a été, près de Pierre, et il a donné cet espoir quand même. Le Seigneur lui avait dit, peut-être que ça n'est pas souvenu, mais que il faudrait restaurer, et c'est ce que le Seigneur passe devant chacun de nous, même si nous avons manqué.